Gloire à Dieu. Si nous sommes ici cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose de logique. C'est notre relation avec Dieu. C'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, est déjà un quotidien. Pour certains d'autres, ça ne l'est pas encore. Ça va le devenir. Mais nous croyons que pour chacun de nous, même si c'est déjà un quotidien, il y a toujours quelque chose à améliorer. Il y a toujours une intimité qui peut être plus proche avec Dieu. Alors je vous propose de faire un flashback sur un petit peu l'histoire de la Bible pour savoir que veut dire et quelle importance a le mot « relation avec Dieu ». Quand Dieu créa l'homme sur la terre, il le créa à son image. Il créa l'homme et la femme. Et il dit quelque chose. Vous pouvez toucher de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors, comme chacun de nous, ce qui est interdit peut nous attirer. Ça, c'est la nature humaine. C'est-à-dire que, si ici on dit, par exemple, vous pouvez rentrer par toutes les portes, mais celle-ci, là, vous ne pouvez pas y aller. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui est trop important pour vous. Quand la salle va être vide, si quelqu'un reste ici, la première des choses qu'il va faire, ce n'est pas aller voir les autres portes. C'est comme par hasard, aller voir celle-ci. Parce que ce qui nous plaît, dans notre nature humaine, c'est ce qui est interdit. C'est notre curiosité. C'est arriver à s'affranchir, à se libérer d'un joug qui pèse sur notre propre liberté. C'est ça l'intérêt de l'être humain. L'intérêt de Dieu, c'est de faire comprendre à l'être humain qu'il a besoin de ce joug. Donc ce sont deux forces qui sont contre l'une de l'autre. Ce sont deux directions opposées. Il se passe quelque chose, c'est que ils prennent quand même de ce fruit. Il y en avait bien assez dans tout le reste du jardin. Mais non, il a fallu qu'ils prennent celui-là. Bien sûr, nous, on n'aurait pas fait ça. C'est eux qui l'ont fait. Pas nous. Mais quand on réfléchit bien, la même nature est en nous. Alors ils sont tombés. Parce que ce que Dieu a dit était vrai. Si vous touchez à ce fruit, vous allez mourir. Que se passe-t-il? La mort, le péché et le royaume de Satan commence à rentrer dans le monde, commence à s'étendre sur toute la surface de la terre. Ça commence à toucher à Babel, pour la tour de Babel, où Dieu a confondu les langues. Ça commence à toucher à l'arche, quand Dieu dit encore une fois, si vous ne rentrez pas dans l'arche, vous serez perdus, parce que je vais faire pleuvoir dans le désert. C'est de la folie pour certains, mais c'est une vérité pour ceux qui ont un cœur assez simple pour écouter Dieu. Alors seulement quelques personnes rentrent dans l'arche. Le reste est perdu. Dieu voulait absolument en terminer avec le péché. Il voulait absolument couper cette racine qui nous séparait de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le péché ne disparaît pas. Le déluge sur la terre n'a pas suffi à faire disparaître ce cancer qu'on appelle le péché. Péché, c'est un grand mot qui nous paraît immense. Et la seule chose qu'il signifie, c'est désobéissance à Dieu. C'est la définition du mot péché. Péché veut dire dans le dictionnaire, veut dire manquer. Manquer le but. Manquer le but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire vivre en harmonie avec Dieu. Dans tout le long de l'histoire de l'Ancien Testament, l'homme, à plusieurs reprises, a manqué ce but. Il a manqué de rester en paix avec Dieu. Dieu toujours était là pour le pardonner. Dieu, dans sa grâce, était là aussi pour envoyer des anges, pour fortifier, pour relever. Il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des gens qui étaient là pour parler de lui, pour rappeler à l'homme que l'existence de sa propre vie dépend de lui. Mais à cause du péché, l'homme était sourd à ce dialogue. Il était sourd à cette communion avec lui. Dieu parlait, mais l'homme n'entendait pas. Ce n'était pas un problème d'audition. C'est un problème de cœur. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ». D'ailleurs, dans l'Apocalypse, plusieurs fois, quand Dieu parle à Jean, il lui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je répète, que celui qui a des oreilles pour entendre, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles, mais elles ne leur servent à rien. Elles servent à écouter toutes sortes de choses dans le monde. Des promesses de carrière, des promesses de belle volonté, des vœux qui ne s'accomplissent jamais. Pour ça, oui, le monde a des oreilles, des grandes oreilles. Mais pour écouter Dieu, comme par hasard, on n'entend plus. Ce péché a empêché l'homme d'accéder à Dieu. Après le déluge, Dieu s'est dit, mais qui ? Qui pourra sauver mon peuple ? Qui sera capable de rétablir le chemin entre moi et les hommes ? Qui sera capable de remettre la paix entre le Créateur et sa créature ? Dieu a établi une loi avec Moïse. Cette loi était de sacrifier des animaux quand l'homme recommençait son péché. Ça a marché un temps. Ensuite, c'est devenu une excuse pour pouvoir pécher. La loi, l'interdiction des choses, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a produit l'envie de désobéir. Et tout en produisant cette envie, l'homme a reçu dans son cœur de tirer profit de ce pardon. Ça veut dire que, à chaque fois qu'il péchait, il pouvait sacrifier un animal, la paix était rétablie pour un temps avec Dieu. Ça devenait un système. Ça devenait quelque chose de récurrent, mais qui n'avait aucune valeur dans le cœur. C'est-à-dire, Dieu est en colère, je vais prendre un agneau, je vais l'égorger, il sera tranquille. Et si demain je pêche, je vais prendre un chevreau et je vais recommencer la même chose. Mais Dieu n'est pas dupe. Dieu a observé le cœur de l'homme. Il a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Par-dessus tout, le cœur de l'homme est tortueux. Il est le contraire de Dieu. Le cœur de Dieu est droit. Sa parole est droite. L'épée qui sort de sa bouche dans l'Apocalypse est une épée aiguë à deux tranchants. Elle est toute droite. C'est-à-dire ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il y a une continuité entre son cœur et ses actions. Mais le cœur de l'homme est tortueux. Ce qu'il dit, il peut éviter de le faire. Et rééviter de le faire. Le cœur de l'homme contient la malhonnêteté à cause de cette séparation avec Dieu. Alors Dieu, dans son amour, a dit, je vais envoyer mon fils. Il est mort à la croix. Il est mort pour qu'une bonne fois pour toutes, la relation soit rétablie avec le Père. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin qui mène au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, c'est Jésus. Si cet après-midi, nous avons accepté dans notre cœur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, ça veut dire, Seigneur, c'est celui qui nous dirige. Le Sauveur, c'est celui qui nous sauve lorsque nous quittons ce monde. Il faut les deux. Il est Seigneur, c'est lui qui dirige. Mais il est aussi Sauveur. Si cet après-midi, il y a des personnes qui n'ont pas encore ce Jésus-Christ dans leur cœur, ils peuvent faire cette prière secrète. Parce que Dieu voit la prière des cœurs. Nous, hommes, nous ne voyons que l'extérieur. Que va-t-il se passer? C'est que celui qui a Jésus-Christ dans son cœur va devoir maintenant entretenir cette relation. Comment? Cette relation s'entretient par plusieurs choses. Je vais relire le passage qu'a lu notre sœur tout à l'heure, parce que ce passage résume un petit peu ce que doit être, ou plutôt ce que devrait être, la vie de chacun de nous. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. On pourrait dire pour nous aujourd'hui, ils assistaient régulièrement aux réunions. Dans la fraction du pain et dans les prières, la fraction du pain, le pain représente le corps de Christ, ils étaient en communion avec Christ. Et dans les prières, l'enseignement des apôtres, pourquoi l'enseignement? On pourrait dire aujourd'hui la prédication des pasteurs. Mais à l'époque, ils n'avaient pas la Bible comme on l'a aujourd'hui. Donc, ce qu'ils apprenaient était entendu. Nous, ce que nous apprenons aujourd'hui est écrit. Mais il faut le lire. Donc, il y a la lecture, il y a les prières. Et il est dit que la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils étaient en paix les uns avec les autres, et ils persévéraient. Ça veut dire que c'était quelque chose de régulier. Vous savez que quand on est en paix avec quelqu'un, on cherche son contact. Quand véritablement, ce qu'il y a dans le cœur de Dieu se retrouve dans notre cœur. Alors, il y a un aimant. Il y a quelque chose qui s'attire. On est attiré naturellement, même sur la terre, par les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui ont les mêmes passions, les personnes qui ont les mêmes désirs, qui ont les mêmes motivations, qui ont le même cœur. Alors, ce qu'il se passe, c'est que si véritablement et naturellement, Christ habite dans nos cœurs, nous allons être poussés tout naturellement à être en contact avec lui. On n'aura pas besoin de nous le dire, ça sera quelque chose d'automatique et de régulier. Ce qu'il se passe, c'est qu'à force de persévérer, on lit la suite, la crainte s'emparait de chacun. C'était un respect devant Dieu, la crainte de décevoir Dieu. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ce n'est pas parce qu'ils étaient apôtres qu'ils faisaient des miracles. C'est parce que toute l'Église était unie Ils s'aimaient les uns les autres. Ils aimaient Dieu. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il se passe des miracles. Alors les miracles arrivaient. Il y a des choses aujourd'hui où parfois on voit qu'il ne se passe plus rien dans les églises. Au niveau des guérisons, au niveau des portes qui s'ouvrent et toutes ces choses-là. Parce que les conditions, il en manque quelques-unes. Ce n'est pas à cause des apôtres. C'est à cause du cœur de tous les chrétiens qu'il s'est passé ça. Il est dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le cœur était commun, le cœur était le même. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Il n'y avait pas de différence entre eux. Il n'y avait pas de grands et de petits. Il y avait tous ensemble. C'était la condition essentielle, s'aimer les uns les autres. C'est le commandement numéro un de Dieu. Après nous dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose. Il faut aussi s'aimer les uns les autres. Et là, c'est ce qu'il se passait. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, encore une fois, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce sont des cœurs qui ne se posaient pas de questions, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça veut dire que même les païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, à cause de leur comportement à eux, ils faisaient grâce aux chrétiens. Ils avaient un témoignage vivant, ils avaient quelque chose devant leurs yeux qui leur prouvait que Dieu qu'ils ne voient pas existe. À travers les chrétiens. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, ça c'est la conséquence logique, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Avec toutes ces conditions, c'est comme une salade, il y a un fruit qui sort. Le fruit, c'est que l'Église grandit, c'est que le nombre grandissait, et aussi la qualité. Le diable à l'époque, l'ennemi de nos âmes, n'avait pas encore toute la liberté qu'il a aujourd'hui, parce que le comportement de l'Église, la communion avec Dieu était trop forte. Alors ça empêchait la progression des ténèbres. Pourtant, il y avait des persécutions, il y avait des problèmes, mais les problèmes produisaient un amour encore plus grand et l'Église grandissait encore plus. Ce qui se passe, c'est que, à force d'avoir cette communion, et c'est ce que la parole nous dit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Les apôtres et le peuple juif avaient l'habitude de prier régulièrement 3 fois par jour. Pierre, lui, priait à la 6e heure, à midi. Il priait tous les jours à midi. Et à cause qu'il priait tous les jours à midi, un jour il lui est arrivé quelque chose. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et tous les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Il a eu une vision. Et on a besoin aussi de direction pour nos vies. On a besoin d'aller chercher une parole de Dieu précise pour chacun de nous, parce que nos vies sont particulières. C'est dans la prière, dans la régularité de notre communion avec Dieu, une fois qu'on a fait la paix avec Jésus-Christ, que se passent toutes ces choses. On va prendre un dernier texte dans Acte 2, au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Encore une fois, ils étaient réunis. Pourquoi faire ? Pas pour jouer aux cartes. Ils étaient réunis pour prier. Tout à coup, à cause de ça, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est la conséquence. Ce baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance qui est donné à ceux qui cherchent la communion avec Dieu. Cet après-midi, nous sommes invités à rechercher les merveilles qu'il y a dans le ciel et qui sont pour nous et qui n'attendent plus qu'une chose, c'est qu'on puisse prier pour les recevoir. Celui qui reçoit des promesses, celui qui reçoit des guérisons est béni de Dieu. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit peut avoir une puissance plus accrue pour parler du Seigneur dans la rue, pour prier, pour intercéder, pour aimer davantage. Et toutes ces choses s'emparent avec notre propre volonté. Et Dieu n'attend plus qu'une chose, c'est de nous les donner, parce que Dieu bénit sans cesse. C'est son cœur qui parle. On va prier le Seigneur ensemble, je vous invite à vous lever.